RCF, il est 6h.
Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
La dernière fois, nous sommes revenus sur la parole du Christ disant aux pharisiens « Vous avez volé la clé de la science, vous n'êtes pas rentré en vous-même et vous empêchez les autres d'y rentrer. » Il est important d'approfondir cette notion de science et notamment de science intérieure. Dans l'évangile de Luc, le Christ dit que le royaume des cieux est en nous. À maintes reprises, il est dit que Dieu est à l'intérieur de nous. Il est tellement à l'intérieur de nous que saint Augustin dit de lui qu'il est cet étrange étranger plus intime à moi-même que moi-même. Qu'est-ce que veut dire « Dieu est à l'intérieur de nous » ? Osons cette idée. « Dieu est à l'intérieur de nous » veut dire que Dieu est de l'ordre de la sensation fondamentale. « Dieu s'éprouve », dit Pascal. « Dieu se sent », dit Grégoire de Nice. Il importe de se pencher sur cette sensation profonde. Qu'est-elle? Que veut-elle dire? Je pense que ce qu'elle veut dire est bien exprimé par la notion de transcendantal. Il y a dans la réalité qui est la nôtre deux niveaux de réalité. Le premier est existentiel et concret. Le deuxième est ontologique et relève de la réalité dans la réalité, du concret dans le concret. Quand on sent parce que l'on sent qu'on sent. La sensation, tout en étant sensible, est en même temps conscience de la sensation. Simultanément sensible et en même temps conscience et spirituelle, elle est la rencontre foudroyante entre le sensible et le spirituel. De sorte qu'elle est Christ, au sens où le Christ est Dieu incarné, Verbe fait chair, spirituel devenu existentiel. Le Christ est au fond de notre sensation comme étant ce qui leur donne la possibilité éblouissante qui est la leur. Nous avons cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces sens permettent de relier l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. L'extérieur à l'intérieur, c'est ce qui se passe avec l'odorat et le goût. L'intérieur avec l'extérieur, c'est ce qui se passe avec la vue et l'ouïe. Et entre l'intérieur et l'extérieur, il y a le toucher qui est simultanément intérieur et extérieur. Derrière les sens, il y a des sens transcendantaux, des sens a priori, des sens auto-réflexifs que l'on ne voit pas et qui permettent de voir. Ainsi, derrière la vue, il y a la vue de la vue. Derrière l'ouïe, il y a l'ouïe de l'ouïe. Derrière l'odorat, il y a l'odorat de l'odorat. Derrière le goût, il y a le goût du goût. Derrière le toucher, il y a le toucher du toucher. Voir, c'est sentir qu'on voit au même moment où on voit. Écouter, c'est sentir que l'on entend au même moment où on entend. Goûter, c'est sentir que l'on goûte au moment où on goûte. Respirer, c'est sentir que l'on respire au moment où l'on respire. Toucher, c'est sentir que l'on touche au moment où on touche. C'est ces sens transcendantaux qui nous font voir, écouter, toucher, goûter, respirer et nous sentir vivants à cette occasion. L'expérience de Dieu, nous l'avons à l'intérieur même de notre sensibilité et c'est ce qui fait le miracle de l'incarnation, le sens tout à fait extraordinaire du Christ. Le Christ étant celui qui est venu dire au monde que Dieu est là. Dieu n'est pas là-bas, il n'est pas ailleurs. Même s'il est l'ailleurs par excellence, l'au-delà par excellence, tellement il est inimaginable. Il est en même temps proche, tout proche, autre manière d'être inimaginable. On peut être inimaginable parce qu'on est lointain, on peut être inimaginable tellement on est proche. Dieu se sent, Dieu se vit à l'intérieur de nos sens. Et c'est ce qui permet de comprendre ici ce qu'est Dieu, à savoir cet extraordinaire inconnu de nous-mêmes, cet extraordinaire inouï de nous-mêmes que nous sentons vivre à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous donne les expériences parfois les plus extraordinaires de notre vie lorsque simplement nous voyons, nous entendons, nous respirons, nous goûtons et nous touchons. Tout le monde a fait l'expérience à un moment ou à un autre de sentir le monde respirer et de se sentir lui-même respirer. C'est là que nous faisons une expérience inouïe qui est de l'ordre de Dieu. Les plus grands pères de l'Église l'ont exprimé d'une manière admirable. Origène n'est pas un père de l'Église. Mais voilà ce qu'il écrit. Ayant trouvé le sens divin, les bienheureux prophètes regardaient divinement, écoutaient divinement, goûtaient et sentaient de la même manière, pour ainsi dire, d'un sens qui n'est pas sensible. Les prophètes sentaient, goûtaient, écoutaient, respiraient divinement avec un sens qui n'est pas sensible. Ce sens étant l'expression du Dieu inconnu qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous permet de vivre d'une manière extraordinaire. Saint Augustin dit quelque chose de semblable quand il écrit « J'aime en mon Dieu cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté. En aimant mon Dieu, j'aime cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté qui suivent l'homme intérieur. S'il y a la vie extérieure et mondaine, s'il y a la vie simplement humaine, il y a dans la vie une vie plus vivante que la vie, il y a dans l'homme un homme plus humain que l'homme. Cet homme extraordinaire, cette vie extraordinaire, c'est la vie divine à l'intérieur de l'homme qui ne nie pas la vie, qui ne nie pas l'homme, mais qui les transfigure en les amenant bien plus loin que ce qu'ils sont en apparence. Merveille ici de comprendre que le Christ n'est pas venu pour abolir le corps, comme parfois l'a pensé Nietzsche, comme parfois le pensent des philosophes modernes comme Michel Onfray. C'est vrai que dans le christianisme, il y a une négation du corps. Et pourtant, quand on lit les Pères et quand on lit les Évangiles, que voit-on ? On voit ici le corps honoré, comme corps à l'intérieur de notre corps, un corps inconnu, un corps glorieux, qui permet de comprendre cette magnifique parole de Saint Paul, disant du corps qu'il est le temple de l'esprit, et parce que le corps est le temple de l'esprit, comme le dit Saint Paul, le Seigneur est pour le corps, et le corps est pour le Seigneur.
Нами Бог разумейте, ожите, покоряйтесь, я яко с нами Бог. С нами Бог разумейте, ожите, Слышите, да возлет не заметь, но Божье покоряйтесь, я
Господи.
Ваши лупаки возможите, паки побеждения будете. И желаешь совет, что решаете разодеть Господь. Слово ежайше возглаголите, не пребудет
Бог.
Страха же вашего не боимся, ниже смутимся. Господа же Бога нашего, того святи. И то и будет нам страх. На него надеюсь, я буду, будет мне восхищение. Я побою, буду на него и спасусь я
им.
Сея сидит, я же не на тебе. Ходящий во тьме видишь осветление, живущий во стране сия ни смерть, ни свет посияет на вы.
C'était exécuté par le chœur des moines de Cheftogne, un chant liturgique intitulé « Dieu est avec nous ». Chers amis, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Vaudet, qui est éditeur aux éditions Salvator et éditeur d'une collection qui nous intéresse particulièrement, puisque cette collection concerne des textes de la tradition orthodoxe, dont vous allez nous parler, cher Nicolas Vaudet, aujourd'hui, en nous rappelant les circonstances de cette collection, comment est-elle née, et quel est son sens, quelle est son intention.
Merci beaucoup Bertrand Vergely pour votre invitation. Donc je suis éditeur chez Salvator et nous avons rapidement, après que je suis rentré dans la maison il y a maintenant bientôt 2 ans, considéré qu'il était important de créer cette collection qui s'appelle donc Voix de l'Orthodoxie, dont le directeur est le père Jif Kopanev, bien connu dans le monde orthodoxe parce que c'est lui qui dirige le site orthodoxie.com, qui fait l'émission sur France 2. Cette collection nous a semblé importante et nécessaire parce que, déjà parce que les éditions Salvator, qui ont été rachetées il y a un peu plus de 2 ans maintenant par la maison d'édition Première Partie, sont un peu à la confluence de diverses traditions au sein du monde chrétien. C'est-à-dire que Première Partie notamment, mais aussi Salvator, font beaucoup dans la mise en contact des traditions catholiques et protestantes, notamment dans le monde évangélique, concernant Première Partie. Et donc, il était d'une certaine manière naturel que soit aussi présente dans les collections, dans les colonnes de Salvatore et de ce groupe, la tradition orthodoxe qui est présente en Occident depuis maintenant 100 ans et même plus en réalité, et qui a quelque chose d'important à dire aujourd'hui en raison de ce qu'elle apporte de différent pour tous les chrétiens qui s'intéressent et qui cherchent à enrichir leur approche de la foi.
Oui, j'ai envie de dire, comment concevoir le christianisme aujourd'hui sans parler de l'orthodoxie?
Voilà. Et cela d'autant plus que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette collection nous a semblé nécessaire, c'est que l'orthodoxie est présente sur le sol français en particulier et occidental en général depuis une centaine d'années. Il y avait déjà en fait une présence orthodoxe avant ça, puisque les Grecs, il y avait une diaspora grecque, notamment dans le sud de la France, mais même à Paris, hein, puisque la cathédrale Saint-Stéphane date du 19e siècle, dans le 8e arrondissement. Mais c'est vrai que l'apport le plus important qui a été fait en termes de nombre, tout simplement, de fidèles orthodoxes sur le sol occidental et français en particulier, ça s'est fait bien évidemment au début du XXe siècle avec la révolution rouge dans l'ancien empire tsariste, qui a jeté sur les routes de l'exil énormément de gens qui sont venus en France et qui n'ont pas seulement apporté la culture aristocratique russe ou des pays qui étaient occupés par l'empire tsariste à cette époque-là, qui ont aussi apporté justement le trésor de l'orthodoxie. Certains l'ont même en réalité redécouvert en France, hein, ou au cours de leur exil, puisque il n'y avait pas forcément de tradition aussi riche et aussi pieuse dans la haute société russe avant la révolution. Et c'est un peu dans le désastre et dans les épreuves que ces Russes et autres ont redécouvert le trésor sur lequel ils étaient un peu assis, je dirais. Mais non seulement donc eux-mêmes l'ont redécouvert, mais ils ont aussi aidé l'Occident à le redécouvrir. J'explique pourquoi je dis ça. C'est que dans le monde orthodoxe, dans les pays de confession orthodoxe, il y avait déjà eu une sorte de mouvement de retour aux sources anciennes. On pense au mouvement des Colivades qui avait opéré un retour à des pratiques plus conformes à la tradition liturgique ascétique orthodoxe dans le monde grec. Quand on regarde les documents préparatoires du Concile de Moscou qui a eu lieu en 1917, qui ne s'est pas achevé parce qu'il a été interrompu par la révolution bolchevique, mais qui avait été convoqué immédiatement après la chute de l'empire tsariste parce que on sentait bien qu'il y avait un malaise dans la manière dont était vécue la foi en Russie. Quand on lit les documents préparatoires, on se rend compte que rien n'allait. Que, bon, les cathédrales étaient magnifiques, qu'il y avait des colonnes en malachite dans la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, mais qu'au-delà de ça, les hiérarques se rendaient bien compte qu'ils avaient perdu les fidèles. C'est-à-dire que les fidèles venaient probablement à l'église, mais c'était pas pour prier. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de chant, c'était un peu l'opéra des pauvres. Mais la foi n'était pas vécue de manière réellement authentique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit quand on lit ces textes. Parce que encore une fois, les hiérarques disent bon ben voilà, les gens ne sont pas éduqués, ils viennent à l'église comme on vient à la taverne. Bon, on arrive à les discipliner.
C'est un club.
C'était presque ça. Et
une religion sociologique, sociale.
Une religion sociologique et sociale qui s'était réduite à son expression sociale. Et bien évidemment, c'était pas quelque chose de satisfaisant. Et le Concile de Moscou a été une volonté de remédier à ce problème-là. Et le moyen qu'on a eu de remédier à ce problème-là, comme l'avaient fait les moines du mouvement des Colivades dans le monde grec, ça a été justement de revenir aux sources. Et c'est-à-dire aux pères, de revenir aux formes liturgiques, musicales, artistique pour l'icône, d'une période qui correspond au Moyen-Âge en Occident, qui avait été un peu oubliée notamment par influence occidentale, et qui en fait était porteuse d'une richesse et d'une profondeur de sens qu'on avait complètement oubliée. Et cette redécouverte-là, elle avait commencé à se faire au XIXe siècle et au XXe siècle dans le monde de l'Église orthodoxe. Et par opposition, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde occidental, il y avait bien évidemment des intellectuels, des chercheurs, des prêtres qui avaient commencé à découvrir toute une richesse, une profondeur de sens, à redécouvrir en tout cas une profondeur de sens qui existait, mais qui avait été un petit peu obscurcie. Mais disons que face à la modernité, le Vatican s'était raidi. Et il n'y avait pas eu justement cette liberté d'aller chercher, de redévelopper, de redécouvrir. Et en fait, d'une certaine manière, c'est aussi au contact des orthodoxes venus en exil ou présents depuis quelques décennies seulement sur le sol occidental et français en particulier, qu'il y a eu justement cette redécouverte, qu'on a redécouvert les pères, qu'on est sorti simplement d'une...
Et bien sûr, ça va se faire avec l'école de Paris.
Absolument.
Et de l'Institut de Saint-Serge, où là, ça va prendre un éclat particulier.
Absolument. À la fois au sein de l'Église orthodoxe et aussi comme interface de communication avec le monde chrétien occidental, puisque très rapidement, Saint-Serge a aussi été un lieu de dialogue avec les autorités catholiques. Et puis
la culture moderne. Et donc la collection que vous dirigez, Voix de l'orthodoxie, eh bien, s'inscrit dans ce renouveau.
Absolument. En tout cas, je dirais que le renouveau s'est déjà fait, mais en tout cas, cette collection veut à la fois profiter effectivement de cet intérêt qui existe toujours, et et elle s'inscrit aussi dans cette volonté justement de mettre en contact les richesses de la tradition byzantine, de la tradition de l'Église orthodoxe, avec, eh bien, en fait, un public qui, en Occident, a connu beaucoup de soubresauts dans la vie religieuse ces dernières décennies, qui se reconstruit, qui se réoriente, qui se réorganise, et qui, à mes yeux, a soif de cette source, qui n'est pas la seule, mais qui, en fait, a quelque chose d'extraordinairement riche à dire, à raconter, à enseigner, et qui justement, c'est le sens de cette collection, c'est justement de proposer toutes ces richesses-là.
Faire vivre cet extraordinaire. Un grand merci, cher Nicolas Vaudet, et nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et pour terminer cette émission, à nouveau le chœur des moines de Chauvetogne, dans ce chant liturgique magnifique intitulé Dieu est avec nous.
и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.
С нами, Бог, разумейте ясны, и покаяйтесь, и
Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. Reflected by the coffee in your hand, my eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared.
Les trésors de la francophonie s'écoutent chaque week-end dans Microphone francophone. Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron vous font découvrir des initiatives positives et durables, mais aussi des univers artistiques et musicaux singuliers aux quatre coins du monde. Microphone francophone, c'est ce dimanche à 12h45 sur RCF.
Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h.
Vous écoutez RCF à Chaumont-sur-Loire sur le 96.4.
Belle journée à tous, à l'écoute de RCF et Radio Notre-Dame. Il est 6h30.
La matinale du week-end, Bruno Fuma.
Bonjour et merci de débuter cette nouvelle journée avec nous. Jusqu'à 9h, c'est la matinale. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er décembre. Nous fêtons Saint-Éloi, Sainte-Florence et Saint-Charles-de-Foucauld. Nous retrouvons tout à l'heure à 6h55 Isabelle Delaunay pour le Saint du jour. Aujourd'hui débute également la nouvelle année liturgique avec le premier dimanche du temps de l'Avent. Et puis on se souvient de cet instant historique, c'était le 1er décembre 1989. Mikhaïl Gorbatchev rencontrait au Vatican le pape Jean-Paul II. Plus d'explications dans ce jour dans l'histoire, ça sera juste après la météo que voici. Le soleil s'installe sur une grande partie du pays après la dissipation des brumes et brouillards matinaux, exception le Languedoc qui conserve un temps gris et humide. Côté Belgique, le ciel se partage entre éclaircies et passages nuageux, parfois importants pour ce dimanche. Les températures, ce matin, moins 1 relevé du côté de Metz, il fait actuellement 1 à Lille et Dijon, 4 à Paris et Lyon, 5 degrés ce matin à Tours et Aurillac, 6 à Rouen, 8 à Bordeaux et Ajaccio, 9 du côté de Rennes, 10 à La Rochelle, 11 à Montpellier et 12 à Marseille. Les températures pour votre dimanche après-midi, on prévoit 7 degrés à Lille et Reims, 9 à Dijon, il fera cet après-midi 11 à Paris, 12 à Rouen, 13 du côté d'Orléans, de Lyon et de Montpellier, 14 degrés pour votre dimanche après-midi à Saint-Étienne et Ajaccio, 15 à Rennes et Marseille, 17 à Toulouse et 18 à Bordeaux. Côté Belgique, 8 degrés cet après-midi à Bruxelles, 9 à Liège. Et pour commencer cette matinale, on s'intéresse à l'histoire.
Ce jour dans l'histoire.
Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Le Royaume de France connaît en ce 1er décembre 1420 un nouveau coup dur. En effet, le roi d'Angleterre, Henri V, entre dans Paris. Et conformément au traité de Troyes signé en mai, il attend le décès de son beau-père Charles VI pour pouvoir être couronné à son tour roi de France. Il va mourir le 31 août 1422, 2 mois avant son beau-père Charles VI. Son jeune fils Henri VI lui succède. Il sera sacré roi de France en 1431 à Notre-Dame de Paris, en réaction au sacre de son cousin Charles VII à Reims en 1429. Quant aux Anglais, ils occuperont Paris jusqu'en 1436. 1989, année de bouleversement géopolitique. La preuve encore le 1er décembre, le numéro 1 soviétique Mikhaïl Gorbatchev se rend au Vatican, rencontrer le pape Jean-Paul II, une grande première.
Dans sa ville blindée noire, Mikhaïl Gorbatchev tire en fait un trait sur 82 ans d'histoire. Il est 10h50, le numéro 1 soviétique entre dans le plus petit état du monde, le Saint-Siège. Pour Jean-Paul II, une confiance accrue pour l'avenir des croyants en URSS et l'attente d'une liberté de conscience dans les pays de l'Est. Quant à Mikhaïl Gorbatchev, visiblement ému, le bonheur, affirme-t-il, d'avoir été simplement compris dans sa volonté de dialogue. Le mythe de Don Camillo et de Pépone semble aujourd'hui bien révolu.
Malgré cette visite historique, encore aucun pape n'a pu se rendre en Russie. Inauguration en France, le 1er décembre 1986. Il s'agit du musée d'Orsay.
Le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing, découvre l'un des plus beaux musées du monde. Ensemble architectural du 19e siècle qui réunit, selon la formule de son président, Jacques Rigaud, les trésors fabuleux des générations qui nous ont précédés.
Il a été conçu pour être un lieu nouveau. C'est-à-dire que la contemplation des œuvres y sera ce qu'elle doit être dans tout musée, mais avec une politique d'animation, c'est un musée où se passera toujours quelque chose, pour reprendre un slogan connu.
Le musée d'Orsay est devenu l'un des musées les plus importants de la capitale.
Ce jour dans l'histoire.
Au chapitre culture, voyait le jour le 1er décembre 1923 à Courtrai en Belgique, l'auteur de bande dessinée Maurice. Il est connu pour être le papa de Lucky Luke, à qui il a donné le jour en 1946. Il nous a quittés en 2001. Et puis naissait le 1er décembre 1947 Alain Bachung, auteur, compositeur et interprète. Au cours de sa carrière, il a obtenu 13 victoires de la musique. Il est décédé en 2009.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. De demi-dieu. Ils vont des petits, ils vont des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. We'll be right back.
éviter les péages, jamais souffrir.
Osez Joséphine Alain Bachung pour refermer ce jour dans l'histoire. Belle journée à tous à l'écoute de RCF et Radio Notre-Dame. Lutter contre la tentation du chaos, c'est le thème qu'aborde maintenant Mgr Bernard Potvin, l'accompagnateur spirituel des radios RCF. Voici aujourd'hui pour aimer. Bonjour Mgr.
Bonjour Bruno. La France est au bord d'un chaos autodestructeur. La France va-t-elle sortir de l'histoire? On trouve ces phrases prédictives sous la plume du très sérieux éditorialiste de notre vie publique, Étienne Jernel. Cet auteur ajoute que, selon lui, nous serions caractérisés par la tentation morbide de l'autodestruction. Un psychodrame dont nous serions à la fois les auteurs, les acteurs et évidemment les victimes. Ce propos est-il excessif? Ou annonce-t-il une réalité qui n'aura rien à envier avec le récit? Je pense exacte cette description d'une tendance morbide, une tendance morbide à flirter avec l'abîme. Flirter avec l'abîme davantage que se ressaisir pour y échapper. Ici, chers auditeurs, nous ne sommes pas dans la science-fiction. Les emplois sont terriblement menacés avec toutes les conséquences humaines. La géopolitique est remplie de nuages sur notre propre continent, nous rendant vulnérables comme jamais. La tentation est donc, effectivement, de se réfugier dans l'inconscience, dans l'immédiateté, le grand n'importe quoi du consumérisme pour celui qui en a les moyens, ou de la désespérance pour celui qui n'en a pas. Nous entrons dans l'Avent. Les calendriers de l'Avent surabondent. Signe d'une mode commerciale ou signe des temps. Calendrier parfois magnifique, splendeur artistique, spirituelle, biblique. Calendrier parfois horrifiant de mercantilisme. Dieu va venir. Dieu va venir en Jésus. Là est notre joie. Là est la grande annonce de la vie chrétienne. Au cœur des réalités, le temps de l'Avent n'ignore surtout pas l'histoire, mais il l'éclaire de l'intérieur. Si l'on te demande pourquoi Dieu s'est incarné, demande Saint Bonaventure au XIIIe siècle. La principale raison est sa très excellente bonté, sa très excellente bonté. Permettez-moi de marteler cette expression du grand docteur de l'Église. Nous sommes anesthésiés, anesthésiés de malheurs que nous nous infligeons. La très grande bonté, la très excellente bonté de Dieu vient frapper ce sommeil macabre. La très excellente, la très grande bonté de Dieu est déjà dans le témoignage d'acteurs de cette bonté. On en rencontre tous les jours, vous et moi. Ils sont de véritables brancardiers de leurs frères. Ils ne se résignent pas à la désespérance contagieuse. La mission de l'Église et de ne surtout pas ignorer la situation gravissime, oui, surtout pas l'ignorer, mais d'annoncer cette très excellente bonté divine comme étant le programme vocationnel de l'homme pour lui-même, de l'homme vis-à-vis de ses frères, de l'homme responsable de toute l'humanité, de toute la création. Le nœud coulant dans lequel le tentateur veut nous enfermer et veut désespérer chacun devant la situation. Ce nœud coulant a ceci de doublement morbide que la perspective suicidaire serait la grande chimère. Nous n'aurions donc plus que cela à nous dire. Jamais peut-être sur notre terre tant de talents sont en attente prophétique. mais il y a comme une noirceur ambiante qui veut les ignorer. L'avant doit être lumière pour le monde. Pas seulement par la joie liturgique d'allumer une bougie d'avant chaque semaine, mais parce que Christ est lumière des hommes. Je vous invite à lire dans l'encyclique du pape au numéro 209, dans l'encyclique « Il nous a aimés », je vous invite à lire au numéro 209 la mission comprise dans la perspective du rayonnement de l'amour du cœur du Christ a besoin de missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ, qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. Numéro 209. Le rayonnement de l'amour du cœur du Christ a besoin de missionnaires amoureux. C'est cet amour vivifiant de Jésus et pour Jésus qui doit rayonner dans le frère et se diffuser dans tout le tissu social, relationnel, familial, interculturel. Oui, la tâche du missionnaire est immense. Elle semble folle, me direz-vous. Mais la question centrale n'est-elle pas le missionnaire de la nativité de Jésus est-il amoureux du Christ? Est-il épris de justice, de paix, de fraternité? Allez, chers amis, on se réveille de sa torpeur et on réveille nos frères qui sont trop souvent eux-mêmes en léthargie. Nous avons aujourd'hui pour aimer.
Et oui, Monseigneur, merci Monseigneur Benoît Potvin. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour Aujourd'hui pour aimer. Monseigneur Potvin, l'accompagnateur spirituel des radios RCF. Dans un instant, nos aventures de Noël, nouveau rendez-vous qui va nous accompagner pendant tout le temps de l'Avent. Ce matin, une histoire de pardon et de platane. C'est juste après le groupe Timothéo.
Celui qui vient après moi,
celui qui
vient après moi.
Celui qui vient après moi.
Celui-là est la vérité,
la parole annoncée
qui vient nous délivrer. Celui qui vient après moi.
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 Celui-là est la vérité, la parole annoncée qui vient nous délivrer. Ouvrez vos cœurs à celui qui vient. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins.
Aplanissez les chemins.
Le royaume est là.
Reprise d'une chanson du groupe marseillais Manu Miguel par les Vendéens du groupe Timothéo, c'était « Aplanissez les chemins » sur RCF et Radio Notre-Dame. Place au premier volet de nos aventures de Noël.
RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël.
Ouvre la porte numéro 1.
C'est une histoire qui m'a été racontée par Guy Gilbert, le prêtre des Loubards. J'espère ne pas trop le déformer. Alors écoutez, un jeune garçon avait coupé tous les liens avec ses parents après maintes disputes. Désormais seul, il menait une vie d'errance, pas toujours très convenable, il faut le dire. Les années passées, sans aucun contact avec sa famille. À la suite d'un accident qui l'avait rendu aveugle, vint l'heure des remords, des remises en question, des besoins d'affection. Mais comment ? Il demanda à un ami d'écrire à ses parents. « Dis-leur que s'ils veulent me revoir, ils accrochent un foulard au platane du jardin. Je comprendrai alors qu'ils m'ont pardonné. » Ainsi fut fait. Une fois arrivé devant la maison familiale, le jeune homme, aveugle, demanda « Alors, que vois-tu ? Il y a un foulard accroché à une branche ?»« Non, répondit l'ami, il n'y en a pas un, mais il y en a des centaines. »
Pour retrouver de nouveaux témoignages de Noël fraternel, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr, sur l'application RCF et les principales plateformes de podcast.
Nos aventures de Noël qui vont nous accompagner jusqu'au 24 décembre comme un calendrier du temps de l'Avent. Merci de débuter avec nous cette journée sur RCF et Radio Notre-Dame.
Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron ? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF et quand vous le voulez, sur rcf.fr.
Pour préparer Noël sous le signe de la fraternité, RCF vous propose son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Tout au long de la journée sur l'antenne de RCF, découvrez ces témoignages d'expériences personnelles de fraternité ou écoutez-les quand vous le souhaitez sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcast.
Vous écoutez RCF, il est 6h50, c'est l'heure de la prière du matin. Dans quelques instants, Mgr Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, nous proposera sa méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 21, votre rédemption approche.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous tromper de bonheur. Dans une société où le bien-être a pris la première place au détriment parfois du vrai bonheur, nous sommes tentés par ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Confondre le vrai bonheur et les plaisirs, certes importants et légitimes, mais qui ne comblent pas la soif de nos cœurs, les désirs d'infini qui habitent chaque être humain. Mon bonheur, ce n'est pas de jouir de la vie, c'est d'être aimé infiniment, par un Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui m'invite à donner la mienne pour mes frères. Au milieu du malheur, les prophètes de l'Ancien Testament, comme le Seigneur Jésus, et tous les saints de l'histoire de l'Église, nous rappellent que le Seigneur est là, toujours présent à nos côtés, parfois silencieux mais infiniment aimant. Oui, l'espérance n'est pas morte, elle se trouve dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui savent relever la tête, qui ne se replient pas sur eux-mêmes, qui rayonnent d'un bonheur qui les dépasse. C'est ce à quoi nous invite ce temps de l'Avent. Sachons répondre simplement et avec courage à l'appel de Jésus qui nous invite à la seule réaction qui soit digne du chrétien, la sainteté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le monde.
La chorale Laetare a réinterprété Le Royaume est proche pour refermer la prière du matin. Monseigneur Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, avait préparé la méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 21. À 6h56, lors d'accueillir Isabelle Delaunay sur RCF et Radio Notre-Dame. Voici le saint du jour. Bonjour Isabelle.
Bonjour. En ce 1er décembre, nous fêtons les Florence et les Éloi, deux prénoms d'origine latine. L'un vient de Florence, qui signifie en fleur, et l'autre, Éloi, veut dire l'élu. Sainte Florence est une fille spirituelle de Saint-Hilaire de Poitiers, qui choisit de vivre en recluse, c'est-à-dire dans une cellule souvent murée. S'appliquant à la prière et au jeûne, elle y vécut 7 ans jusqu'à sa mort. Quant à saint Éloi, bien connu par la chanson populaire, on sait qu'il fut conseiller au 7e siècle du roi Dagobert. Toute sa vie, il a manié beaucoup d'argent, mais il a toujours été très honnête et ne s'est pas enrichi personnellement. Son seul but a été d'affranchir des esclaves, de racheter des prisonniers, de construire des hôpitaux et de fonder des monastères. Mais nous fêtons aussi aujourd'hui saint Charles de Foucault, canonisé par le pape François le 15 mai 2022. Il est difficile de résumer en quelques mots la vie de cet officier de cavalerie de l'armée française, à la jeunesse dissolue et scandaleuse, qui décide de démissionner à 23 ans pour aller explorer le Maroc, ce qui lui vaudra d'être reconnu et médaillé par la Société de géographie. De retour en France et après diverses rencontres, dont celle de l'abbé Huvelin, il retrouve la foi chrétienne et devient moine chez les Trappistes. Mais Charles souhaite vivre encore plus fort son idéal de pauvreté, d'abnégation et de pénitence. Il quitte la Trappe pour devenir ermite en 1897 et vit alors en Palestine. Ordonné prêtre à Viviers en 1901, il s'installe dans le Sahara algérien, à Beni Abbès. Il étudie pendant plus de 12 ans la culture des Touaregs. Il évangélisait beaucoup par son exemple, plus que par ses sermons. Le 1er décembre 1916, Charles de Foucault est assassiné à la porte de son ermitage. Finissons avec un extrait de sa prière bouleversante. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. »
Et oui, merci Isabelle Delaunay, on aura le plaisir de vous retrouver demain matin. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Dans un instant, sur RCF et Radio Notre-Dame, un point sur vos conditions météo.
La Bible nous parle, c'est votre rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Via des entrées thématiques comme l'amour, la mort, la vengeance ou le pardon, et autour de questions auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, cette émission recherche dans la Bible des éléments de réponse. La Bible nous parle, présentée par Madeleine Vatel, c'est ce dimanche à 14h.
C'est le temps de l'Avent sur RCF.
Chaque dimanche sur France 2, le jour du Seigneur vous propose une rencontre intime avec une personnalité française autour de la spiritualité. Paroles inattendues est le lieu pour découvrir des figures de la culture, du showbiz, de la politique et des médias sous un jour inédit. Retrouvez Paroles inattendues chaque dimanche à 11h55 dans le jour du Seigneur sur France 2 et à 12h42 sur RCF.
Visage célèbre ou plus anonyme, chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Des parcours inspirants qui donnent envie de s'engager, de s'émerveiller, de s'ouvrir aux autres. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce dimanche à 11h et 20h.